Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
À suivre, le journal de Céline Kallmann qui nous a rejoint à ce profil. Bonjour Céline.
Bonjour Mathieu.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos et de rire, et parfois, par inadvertance, des deux en même temps. Quand par exemple Eva Rock tente de formuler une question intelligible à nos auditeurs.
Quelle cérémonie au cours de laquelle on pourrait enfin obtenir un prix en tant que Français ?
Quelle cérémonie au cours de laquelle on pourrait obtenir un prix en tant que Français ?
Il était 5h du matin.
Pas les décodeurs en tout cas déjà. Une approximation heureusement compensée par la précision de Céline Dacosta dans ses points météo. Est-ce qu'il y a du soleil aujourd'hui ?
Oui, enfin quand il sera levé, hein, évidemment.
Alors évidemment, oui. Céline, si Debout les copains devait se limiter à ça, on aurait tendance à se dire...
Ah merde !
Comme vous dites. Heureusement, je vous rassure, il y a aussi Fabrice Dalméda, qui chaque matin, dans cet historique, examine l'actualité à l'aune de l'histoire. Ce matin, avec les funérailles aujourd'hui de George Bush, on se demandera ce qu'on doit retenir de l'ancien président américain.
Merci d'écouter Europe 1. Nous sommes le mercredi 5 décembre. Et il est 6h. Très bon réveil. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce mercredi 5 décembre, voici le journal de Céline Kallmann. Bonjour Céline.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une Céline.
Le changement de cap du gouvernement va-t-il enfin apaiser la colère des gilets jaunes ? Trop tard, répondent ceux qui sont mobilisés depuis le début. Hier soir, Emmanuel Macron a été hué, insulté en sortant de la préfecture du Puy-en-Velay. Du côté des députés de la majorité, personne non plus ne semble satisfait. Et puis les Républicains demandent le retour de l'état d'urgence. Les fédérations CGTFO du secteur transport appellent à une grève indéterminée à partir de dimanche.
Europe 1.
Un revirement d'une ampleur inédite sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Après 3 semaines de contestation, après plusieurs week-ends de violences et d'affrontements, Édouard Philippe a donc annoncé un moratoire sur la taxe carburant, un gel de la hausse du gaz et de l'électricité. Édouard Philippe, qui il y a encore une semaine était inflexible, a enclenché la marche arrière et finit par céder, mais semble-t-il trop tard pour beaucoup de gilets jaunes qui promettent de rester mobilisés. C'est le cas de Monique, la cinquantaine, rencontrée par Nathalie Chevance dans les Bouches-du-Rhône à La Ciotat.
Un geste ? Mais non, il nous a pris carrément pour des cons. Pour des cons. Il croit qu'on est bêtes. Parce que 6 mois, ça veut dire que dans 6 mois, ça recommence. Mais c'est pas parce qu'on a un petit salaire qu'on est bêtes.
Quel geste fort devraient faire Emmanuel Macron et Édouard Philippe pour faire en sorte que vous arrêtiez le mouvement ?
Mettre le SMIC à 1700 euros, c'est la base de vivre. Eux, ils gagnent des millions par jour, mais nous, on est dans la misère. Voilà.
Touchez combien, madame ?
700 euros. C'est un devoir d'être là. Et pourtant, je suis sous chimiothérapie et je suis debout. Debout pour la France.
La détermination de Monique avec Nathalie Chevance qui illustre la tonalité des porte-parole des Gilets jaunes qui réclament donc une revalorisation du SMIC et le retour de l'ISF. Des mesures jugées également insuffisantes par l'opposition. Les Républicains demandent quant à eux le retour de l'état d'urgence. Seule mesure qui permettrait, disent-ils, d'ici samedi, de prévenir de nouvelles violences dans les manifestations.
En tout cas, Céline, après les annonces d'Edouard Philippe, les députés de la majorité sont perplexes.
Oui, et personne ne semble totalement satisfait, comme a pu le constater Virginie Riva.
Ceux qui ne voulaient rien lâcher sont sortis dépités. Un cadre d'En Marche lâche, le quinquennat est fini, l'opposition a gagné. Ceux qui appelaient de leur vœu un moratoire sur les taxes sont soulagés. Ils étaient nombreux hier à s'envoyer des SMS. L'un de ces messages que l'on a pu consulter disait « On a réussi, on a fait reculer l'Élysée ». Le président de groupe Gilles Legendre était donc contraint de faire l'équilibriste devant les caméras. Il avait un message à faire passer et un seul « On n'a pas reculé ». Tous, heureux ou non de ces annonces, se rejoignent sur un point. Ils doutent de leurs effets. Le problème, c'est qu'on a toujours une semaine de retard, nous dit l'une d'entre eux. Il y a eu un bug dans l'analyse politique du mouvement, renchérit-elle. Un ancien socialiste confie avoir des doutes sur la concertation à venir. Elle est jugée trop floue. Maintenant, une seule solution pour le vice-président du groupe Bruno Ketel. On doit inonder le territoire de notre présence et retrouver le lien de confiance. Sans y croire, tous espèrent que les manifs vont s'arrêter.
Virginie Riva pour Europe 1. Les fédérations CGTFO du transport routier appellent à la grève à partir de dimanche soir 22h et pour une durée indéterminée. Ils veulent défendre le pouvoir d'achat et qualifient de miettes les mesures annoncées par Édouard Philippe. Par ailleurs, les organisateurs des marches pour le climat maintiennent leur appel à manifester donc samedi. Même Nicolas Hulot hier soir a estimé que ce n'était pas le moment d'organiser ces défilés. Et puis une des conséquences du mouvement des Gilets jaunes, le Téléthon se voit contraint de revoir ses plans. France Télévisions a déjà installé un immense plateau place de la Concorde. Eh bien, selon le Parisien, les directs auront lieu, en tout cas le samedi, dans un studio situé au sous-sol de France Télévisions.
Et puis une phrase qui résonne ce matin, celle de la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde.
Oui, cette dernière a lancé un appel depuis Washington. Il faut renouveler la coopération internationale. Christine Lagarde dit craindre l'avènement d'un âge de la colère où les inégalités pourraient bientôt surpasser celles de l'âge d'or du capitalisme au XIXe siècle. Aux États-Unis, Donald Trump a lui ironisé sur les concessions faites par la France aux Gilets jaunes sur les taxes et carburants, affirmant que l'accord de Paris était fondamentalement mauvais car il provoque une hausse des prix de l'énergie. Et puis on l'apprend à l'instant, la Nouvelle-Calédonie appelle à se mettre en sécurité après une alerte au tsunami après un séisme de 7,5, donc au large de la Nouvelle-Calédonie. On y reviendra évidemment dans le journal de 6h30 avec David Doucan.
Europe 1, il est 6h04.
Et on retourne aux États-Unis avec les funérailles de George Bush père qui vont se dérouler sous haute surveillance à Washington.
Oui, hier encore, des milliers d'Américains ont rendu hommage à l'ancien président, des Américains venus de tout le pays. Certains ont même fait près de 2 heures de queue dans le froid pour saluer une dernière fois celui que beaucoup qualifient de gentleman.
C'était un vrai gentleman de ce que je sais de lui. Aujourd'hui, on a perdu les manières et le respect pour les gens. C'est horrible. J'espère que ça reviendra.
J'ai servi 2 fois dans la guerre au Vietnam. J'ai participé à l'opération Bouclier du Désert. Et j'ai participé à la guerre contre le terrorisme. Le président Bush était de loin, mais de loin le meilleur commandant en chef. C'était un patriote. Un vrai patriote.
Je pense que c'était un homme bien. Et je pense que l'administration actuelle aurait beaucoup à apprendre de l'administration Bush.
Un propos recueilli par Sonia Dridi pour Europe 1. Puis cette info publiée cette nuit par la célèbre revue scientifique The Lancet, la naissance d'un bébé conçu dans un utérus greffé à partir d'une donneuse décédée. L'enfant est né il y a 1 an au Brésil et va bien. Le recours à des donneuses décédées pourrait donc considérablement élargir l'accès à ce traitement.
Merci beaucoup. C'était le journal de Céline Kallmann et Céline Offet. Au sujet de ma petite proposition, vous avez eu le temps d'y réfléchir ? Vous en pensez quoi ?
Il y a bien d'autres priorités que la fessée.
Mais non, pas celle-là ! Proposition professionnelle, c'est enfin, ce que vous racontez. Europe
1. Il est 6h05, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique, le fact-checking par l'histoire. Et alors que se tiendront aujourd'hui à Washington les funérailles de George Bush, Fabrice Dalméda interroge l'héritage du 41e président des États-Unis.
Mathieu Noël sur Europe 1.
Il est 6h07, Mathieu Noël.
L'heure d'un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. Quel temps pour aujourd'hui ? Des averses.
Oui,
encore.
Alors elles sont faibles, hein, ces averses, mais présentes sur la moitié nord ce matin, avec des brouillards aussi qui sont fréquents. Un ciel voilé à couvert pour les autres. Le soleil lui résiste, en revanche, du sud-ouest à la région Rhône-Alpes. On va le retrouver cet après-midi des Pyrénées aux Alpes et près des côtes méditerranéennes. Ce sera toujours voilé pour les autres et encore bien couvert de l'Île-de-France aux régions les plus au nord. On aura aussi une nouvelle perturbation. Elle arrivera par la Bretagne avec des averses soutenues et du vent. Les températures reste douce, 10 à 19 degrés du nord au sud pour cet après-midi.
Merci Céline. Eva, c'est aujourd'hui l'anniversaire d'un ami.
Exactement, celui de Jean-Luc Petit-Renaud en ce 5 décembre. Nous vous avons demandé à cette occasion de quel plat vous aviez envie avant 7h du matin. Et bien sur Twitter avec le hashtag Europe 1, c'est Aurélie qui nous a répondu. Par exemple, petit déjeuner américain, œufs bacon, pancakes avec des pépites de chocolat et puis un petit thé avec un nuage de lait vous écoutant. Et c'est le bonheur, je comprends bien. Il y a aussi Hervé qui nous dit qu'il vit en Chine. Il revient rarement en France, mais la première chose qu'il fait, c'est qu'il court acheter un jambon beurre avec de la baguette fraîche, parce qu'apparemment ça lui manque en Chine. Et puis Sophie,
le camembert aussi, comment fait-il pour vivre en Chine?
Oui, Sophie nous dit, j'en mangerai sur la tête d'un pouilleux un bon rogaille saucisse cuisiné par mon mari, c'est un régal. Merci
sur
pour tous vos messages.
Merci Eva, merci à vous chers auditeurs.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
À l'heure de passer au journal des sports, j'aurai ce matin une pensée pour tous ceux qui, comme Jérôme Lacroix, ont des proches qui ont hélas sombré dans l'alcool. Car le plus dur, c'est évidemment pour les proches, qui tentent, comme Jérôme, de continuer à vivre normalement, à présenter un journal normalement, sous les rires gras et chargés en whisky de ses collègues.
Toujours sur le podium, Ronaldo. C'est une sacrée longévité, non, pour le coup, je lui tire mon chapeau.
T'as pas de chapeau ?
Comment tu fais pour tirer ton chapeau sans chapeau ?
Ouais.
C'est lourd. T'as pas de chapeau ?
Eh, Jérôme.
Allez, Gégé, ne les écoutez pas. Procédez au journal des sports. De l'autre côté du poste, des gens, eux, qui n'ont pas bu, attendent les résultats sportifs.
Catherine et Liliane, enfin, c'est ça.
Ah, c'est vraiment Catherine, de plus en plus, hein, c'est inquiétant. À la une, les amis, une France sereine.
Oui, c'est la France du handball. En tout cas, elles sont en confiance, les filles de l'équipe de France. Elles disputent en ce moment l'Euro à domicile. Alors hier, elles achevaient le premier tour par un probant succès, 25-20 face aux Monténégrines. Et dès demain, début de la deuxième phase avec un France-Danemark, les Danoises candidates au moins au podium. Hein. Le sélectionneur tricolore Olivier Krumbholz, lui, il note déjà un désavantage dans la préparation pour les Bleus. elles doivent aujourd'hui déménager, voyager de Nancy, où elles ont joué le premier tour, à Nantes, théâtre de la rencontre de demain.
On se déplace, eux ne se déplacent pas. Donc demain, la journée, elle est foutue en l'air. Et donc, il va falloir aller chercher prioritairement au niveau des tripes et se rebeller par rapport à ça. On va mettre les tripes dessus.
Des propos recueillis par Christophe Lamarre. France-Danemark, demain 18h, suivront la Suède et la Serbie samedi et mercredi prochain. Et au bout de ces trois matchs, l'espoir d'une demi-finale.
Le foot est un classique aujourd'hui.
Nantes-Marseille, 19h à 21h, Strasbourg-PSG, suite et fin de la 16e journée de Ligue 1. Hier soir, trois matchs avancés et deux infos à retenir. D'abord, les Lillois, de nouveau dauphins du PSG. Ils ravissent la deuxième place à leur victime. D'hier soir, les Montpelliérains battus à domicile 1-0. Et puis les Monégasques ne figurent plus ce matin à une place concernée par la relégation. C'est la première fois depuis deux mois et demi. Ils sont 17e grâce à un succès 2-0 à Amiens.
On parle à présent d'un athlète français qui est comme vous, Jérôme, insatiable.
L'infini appétit de Martin Fourcade, la star mondiale du biathlon sportif français, le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques. Hein, hiver et été confondus, 5 médailles d'or. 7 ans que le Pyrénéen de 30 ans est intouchable sur la planète biathlon et il attaque aujourd'hui la conquête d'un 8e sacre en individuel, première épreuve de la saison sur les pentes slovènes, le 20 km. Martin Fourcade qui part malgré tout un peu dans l'inconnu, il a un nouvel entraîneur après 10 ans de fidélité au précédent.
Il y a forcément une part d'incertitude parce qu'on ne connaît pas le niveau des autres nations, parce qu'on a envie de valider tout ce qu'on a mis en place nous cet été, mais aussi avec des années un peu plus de sérénité peut-être.
Martin Fourcade joint pour Europe 1 par Marie Guida.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
Celle du champion suisse Roger Federer. Il vit actuellement, figurez-vous, la 1000e semaine consécutive de sa carrière dans le top 100 du classement mondial. Il est 3e, c'est le record absolu de l'histoire. Jimmy Connors s'était arrêté par exemple à 888. Federer, il est entré dans ce top 100 en octobre 1999. Toujours là, près de 20 ans plus tard.
Quelle incroyable. Magnifique longévité, Jérôme. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Jérôme, dont vous le savez, le petit cœur bat pour sa collègue Céline Dacosta. Céline qui s'est retrouvée hier au centre d'un quiproquo cocasse. Fabrice Dalméda, le monsieur histoire d'Europe 1, la voyant l'accueillir en studio les bras grands ouverts, se dit, lui prêtant une trop grande culture historique, tiens, elle fait le geste du général de Gaulle rapport au fait que je présente la rubrique histoire. En fait, c'était un peu plus simple que ça.
Ça va, Fabrice ?
J'aime beaucoup quand tu fais geste quand tu me vois.
Comment ?
J'aime beaucoup quand tu fais geste quand tu me vois.
Ça dit quoi ?
J'aime beaucoup quand tu fais geste quand tu me vois.
J'étais en train de me tirer.
C'était De Gaulle.
Mais non, c'était pas De Gaulle, elle se tire.
Je me tirais, c'est tout.
Ne désespérez pas, Fabrice, il y a des gens qui respectent l'histoire. Et c'est pour eux que ce matin, vous reviendrez sur l'héritage du 41e président américain dont les funérailles ont lieu aujourd'hui, George Bush.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Dalméda.
Bonjour.
Les funérailles de l'ancien président George Bush, père, mort à 94 ans, pardon, se préparent donc aux États-Unis, à Washington. Que dit sa disparition du monde dans lequel on vit ?
Bah en fait, aucun président ne s'identifie autant avec la mondialisation que George Bush. Dès les années 70, il a prôné l'ouverture économique de la Chine. Puis, à la tête de la CIA et dans la banque privée, il s'est forgé une conviction ultra-libérale. C'est pourquoi, avec le président Ronald Reagan, dont il devient le vice-président en 1980, il pousse activement à la réduction de l'État fédéral et à la financiarisation.
Et comme président ?
Bah, c'est encore plus radical. Après son élection en 1988, George Bush renforce le libre-échange, notamment avec le Canada et l'Amérique latine. Il veut ainsi combattre la récession. Pendant sa présidence, le monde s'unifie. C'est la chute du mur de Berlin, la disparition de l'Empire soviétique. George Bush prétend alors promouvoir un nouvel ordre international sous l'égide des Nations Unies. L'intervention contre l'Irak de 1991 lui permet d'imposer l'hyperpuissance américaine dans la mondialisation. Pourtant, cette guerre qu'il avait voulu à coups de propagande mensongère ne suffit pas à sa réélection.
Alors sur quoi a-t-il buté ?
Ben, les impôts. Les électeurs américains ne lui pardonnent pas une promesse rompue. En 1988, pendant les élections, il avait déclaré « Lisez bien sur mes lèvres ». No new taxes, pas de nouvelles taxes. Or, dès 1990, il augmente les taxes. Cela lui sera fatal pendant la campagne face à Bill Clinton, 2 ans plus tard. Après cette défaite, il soutiendra l'ascension de son fils, George Bush Jr. Ses funérailles symbolisent au fond la fin de sa mondialisation ouverte. Car avec Donald Trump s'impose le protectionnisme, un désir de ne pas s'impliquer militairement à l'étranger, un nationalisme peu libéral différent de celui de Bush. Et déjà, se profile un monde cloisonné.
Merci beaucoup Fabrice Dalméda pour cet éclairage. L'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain, juste avant 6h15.
Europe 1, il est 6h15, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos, de rire et d'interview. À 6h20, nous fêterons avec notre invité la journée mondiale du bénévolat.
Donne pour donner.
Une journée qui intervient alors que les associations s'inquiètent d'une baisse des dons, parfois de façon conséquente. Comment s'engage-t-on aujourd'hui? Nous serons avec le fondateur d'une start-up en pointe dans le domaine du bénévolat, Félix Demont. Oui Céline, vous avez déjà un message pour lui?
Félix, joyeux Noël Félix!
Bien, il fallait s'y attendre.
Il est 6h18, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Emmanuel Macron hué hier soir à la sortie de la préfecture du Puy-en-Velay. Les annonces du gouvernement pour tenter d'apaiser la crise des gilets jaunes semblent arriver trop tard. Des mesures qui devraient par ailleurs entraîner un manque à gagner de près de 2 milliards d'euros pour les finances publiques. Hier, pour la deuxième journée consécutive, de nombreux lycées ont été bloqués. Des affrontements ont eu lieu avec les forces de l'ordre. Plusieurs universités sont également touchées. Enfin, mot de football, Lille remporte le choc à Montpellier et reprend la deuxième place du classement après sa victoire 1-0 en match avancé hier soir de la 16e journée de Ligue 1.
5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les principaux titres de ce 5 décembre 2018. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale du bénévolat. Une journée qui intervient alors que les associations s'inquiètent d'une baisse des dons, parfois de façon conséquente. Comment s'engage-t-on en 2018? Bonjour Félix Demont.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes le fondateur d'une initiative réjouissante intitulée Vendredi. Vous nous expliquez de quoi il s'agit? Je pense que vous le ferez mieux que moi.
Mais merci beaucoup de me donner la parole. Alors chez Vendredi, c'est très simple. On permet à des salariés de faire leur vendredi. Qu'est-ce que ça veut dire faire son vendredi? Ça veut dire dédier un jour de travail par mois, un jour de travail par semaine ou plusieurs vendredis la même semaine à mettre ses compétences, ses talents, ses passions au service de projets à fort impact social. Le tout sur son temps de travail en restant payé à temps plein.
En restant payé, c'est la partie la plus importante.
C'est-à-dire que voilà, ça veut dire que moi, par exemple, ce vendredi,
non, Eva, pas vous. Non, je peux pas vous
ce vendredi, je peux aller travailler pour une association ou pour un projet à vocation sociale en étant payé par mon entreprise.
Tout à fait.
Ouais. Vous exploitez là quelque chose qui est déjà, c'est légal, ça fait partie du cadre légal.
Ça fait partie du cadre légal, alors ça s'appelle le mécénat de compétences, à la différence du bénévolat.
Ça existe pour toutes les entreprises.
Alors c'est autorisé, donc les entreprises peuvent, à la place de donner des dons financiers à des associations ou des actions d'intérêt général.
Ils peuvent donner leurs salariés,
prêter leurs salariés qui continuent à payer. Et en fait, au lieu de donner de l'argent, en fait, on va payer ces salariés, on va les mettre à disposition de projets qui vont dans le bon sens.
Alors, l'idée est lumineuse, comment vous est-elle venue?
Alors, l'idée du mécénat de compétences, elle n'est pas de moi puisqu'elle est inscrite dans les textes
ne
de loi.
Ne soyez pas modeste, Félix.
Et elle préexistait à l'existence de Vendredi. L'idée de Vendredi, elle est née sur le terrain d'une envie, en fait, de répondre à la quête de sens de jeunes au départ, de jeunes diplômés, mais plus largement de répondre vraiment à cette quête de sens au travail. Moi, j'ai vu de la souffrance au boulot dans le cadre de mes stages en entreprise, dans le cadre de même ce qu'ont pu vivre mes parents dans leur vie professionnelle, où je pense qu'aujourd'hui le travail crée beaucoup de souffrance alors qu'il y a un potentiel de talent et d'engagement inexploité.
Et alors justement, parmi ces salariés qui ont envie de donner de leur temps, est-ce que c'est plutôt des jeunes, plutôt des gens plus proches de la retraite? C'est quoi le profil type?
Alors c'est une super bonne question, mais nous on accompagne des gens pour faire leur vendredi de 20 ans à 65 ans.
D'accord,
donc on a tout.
Et
pourquoi? En fait parce qu'en proposant des vendredis, les entreprises vont répondre à des enjeux RH qu'elles peuvent rencontrer. Comment on attire les talents de demain, comment on répond à des cas de mobilité, comment on propose des dispositifs d'engagement sociétal à toute son entreprise, ou comment on accompagne la transition de fin de carrière. Et donc, on a différents types de vendredis. C'est pour ça qu'on a parfois des modèles un jour par mois, comme des gens qui vont faire une année, leur dernière année de carrière en association.
Pour bien comprendre, est-ce qu'on pourrait nous donner un exemple de salarié qui décide de faire son vendredi et que vous mettez en relation avec une association, par exemple?
Je peux vous donner l'exemple de Johanna. Donc elle travaille chez Carrefour. Et dans le cadre d'un programme de formation interne, elle a dédié 2 mois de son temps de travail à l'association Emmaüs Défi. Emmaüs Défi, il travaille sur les fondamentaux d'Emmaüs, récupération d'objets, collecte, tri, revente, mais il réinsère des SDF, qui sont les gens les plus éloignés de l'emploi, en se disant le pari pour accompagner ces gens dans la société, c'est de leur trouver un travail. Et en fait, c'est un partenaire historique de Carrefour, et Johanna, elle est experte en logistique, et donc ça tourne super bien, parce qu'en fait, leur métier, c'est de la logistique, donc elle est venue travailler sur les process logistiques, et notamment le déploiement d'un système d'information chez eux. Ça, c'est un exemple. J'en ai un autre qui est génial. C'est Marie-Hélène. Elle travaille chez Aéroports de Paris. Mmh. En fin de carrière, elle s'engage pour Aviation Sans Frontières pour ses 2 dernières années de carrière. Et elle va travailler sur tout ce qui est les dons et la récupération pour l'acheminement.
Alors, voilà. une question plus d'actualité. Alors que le pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations et que les gilets jaunes exigent des augmentations de salaire, est-ce que le don du temps vous paraît être une priorité en ce moment pour les entreprises ou pour les salariés? On a l'impression qu'on pourrait imaginer que ça cogne un peu, comme on dit.
En fait, je pense qu'une des manifestations que révèlent les gilets jaunes, c'est le contrat social aujourd'hui. comment on redistribue, comment on crée un sentiment d'égalité. Et le dispositif de vendredi vise à dire tout le monde peut faire bouger les lignes à son échelle. Les entreprises s'engagent en permettant aux individus de faire la différence. Et aujourd'hui, je pense que les gens, ils ont besoin de concret, de sentir qu'ils s'investissent, qu'ils font bouger les lignes. Et je pense qu'on a une réponse concrète et pragmatique à ce sujet-là. Après, on n'est pas une réponse fondamentale au chômage ou à ces... à ces questions transverses.
En France, on dit souvent que l'engagement n'est pas très reconnu par les entreprises, par opposition aux pays anglo-saxons, par exemple. Est-ce que ça, vous le constatez, ou est-ce que vous constatez, au contraire, un changement de ce côté-là? Les entreprises jouent plus en plus le jeu.
En fait, je dirais plutôt un changement fondamental, tout du moins dans l'importance sur le recrutement des personnes, où on sait que c'est... en fait, les personnes qui s'engagent et s'investissent en dehors, ça veut dire qu'elles prennent des responsabilités, elles décident d'agir, et ça, c'est un facteur déterminant, entre guillemets, de potentiel ou de talent, puisqu'on va rechercher des gens qui vont faire plus que ce qu'on leur demande naturellement. Donc, je pense que dans le recrutement aujourd'hui, c'est bien conscientisé. Ça dépend de la culture des entreprises. La question après fondamentale par rapport au modèle anglo-saxon, c'est que je pense que, d'une part, dans la culture française, il y a une dimension du rôle de l'État qui est plus forte dans ses actions sociétales. Et il y a une deuxième dimension qui est peut-être due plus à la culture catholique, de garder ça pour soi.
Et ça,
je pense que les choses sont en train de changer, même via LinkedIn, des choses comme ça, où les gens partagent, expriment leur engagement, ce qui n'existait pas trop avant.
Merci beaucoup, Félix Demont, d'avoir été avec nous ce matin au micro d'Europe 1. On rappelle le nom de votre start-up, Vendredi, chaque jour compte. Tous les renseignements sont à retrouver sur votre site internet, Vendredi,
merci beaucoup.
Chaque jour
et
compte.
Moi, ce que je souhaite juste dire à tous les auditeurs, c'est que vous pouvez faire les différences à votre échelle en en parlant autour de vous. Bonne journée, c'est bientôt vendredi et votre mardi peut être un vendredi.
Voilà. Bien joué, merci beaucoup.
Europe 1, il est 6h24, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 de David Doucan. La météo revient et les nuages, eux, restent.
Il est 6h27, Mathieu Noël.
Juste avant le journal de 6h30, un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. Un ciel couvert sur la moitié nord.
Oui, avec de faibles averses, du vent près des côtes de la Manche et du brouillard dans les vallées. Ça, c'est le programme pour ce matin, de la Bretagne, Pays de la Loire jusqu'en Lorraine. On a un ciel bien voilé pour l'Alsace, mais aussi du Poitou-Charente à la Gironde, sur le Limousin, la région Centre, le Massif Central et la Bourgogne. Plus au sud des Landes, à la région Rhône-Alpes, ça sera du soleil avec des brouillards assez denses quand même ce matin près de la Garonne. Cet après-midi, on aura toujours de faibles averses sur l'ouest parisien, les Hauts-de-France, les Ardennes. Elles gagneront la région centre et puis une nouvelle perturbation plus active, celle-là arrivera par la Bretagne avec des pluies soutenues, peut-être même quelques coups de tonnerre et un vent qui sera assez fort, jusqu'à 70 km/h dans les terres. Pour le reste du pays, un soleil voilé, voire un ciel couvert, sauf entre les Pyrénées et les Alpes où le soleil brillera largement, en Corse aussi, toute la journée du soleil.
Merci Céline, restez avec nous dans une minute, le journal de 6h30.
Europe 1, 5h, 7h. Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures pour tout savoir de l'actu sans jamais oublier d'en rire. À suivre. Politique, économie, médias, les trois fantastiques vous livrent de l'actu une vision sans concession, la leur. Au sommaire du jour notamment, comment le tandem Macron-Philippe fait face à la crise, le couple franco-allemand qui se met enfin d'accord pour taxer les GAFA, mais pas trop. Enfin, Eva Rock nous conseillera un programme télé et on espère pour elle qu'il n'aura pas un titre anglais comme hier, parce que dans ces cas-là, la pauvrine est assez démunie. Oh, hier, c'était quoi déjà, Eva, qu'il fallait regarder?
Amazing Question Bang Big Bang.
Yes, as I said.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 avec vous, David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une aujourd'hui.
Le recul du gouvernement suffira-t-il pour arrêter la révolte? Les mesures sont accueillies froidement. Nous zoomerons sur la question du contrôle technique dès le début de ce journal. Loin de se calmer, le vent de révolte pourrait bien se renforcer. Un nouveau front s'ouvre face au gouvernement. La CGT et Force ouvrière appellent les routiers à se mettre en grève à partir de dimanche soir. Et puis, nous vous parlerons des sages-femmes, l'un des métiers les plus populaires aux yeux de nos concitoyens. Eh bien, figurez-vous que leur formation est bien trop rude. C'est ce qu'avance une enquête réalisée par leur principal syndicat.
Europe 1.
L'exécutif recule, mais pas la colère. Le président de la République a été copieusement hué et même insulté par la foule alors qu'il effectuait une visite à la préfecture incendiée du Puy-en-Velay. Comme si rien de ce que pouvait dire ou faire le gouvernement n'avait désormais le pouvoir de calmer la rage de certains de nos concitoyens. Alors parlons par exemple de la suspension pour 6 mois des mesures de durcissement du contrôle technique qui devait initialement être mise en place au 1er janvier. Eh bien, que ce soit les gilets jaunes ou les professionnels de la mécanique, personne n'est content. Reportage dans le Sud-Ouest signé Stéphane Place.
C'est juste un décalage de 6 mois. Va-t-on vers une révision des seuils de ces mesures qui devaient être appliquées au 1er janvier? Ce sont les questions que se pose par exemple le patron d'une grosse entreprise de contrôle technique que nous avons joint hier. Au passage, il rappelle que les centres se sont pour certains déjà équipés du matériel et c'est un investissement pour effectuer ces contrôles plus sévères et finalement repousser. Repousser ne signifie pas abandonner, insiste cet automobiliste qui vient de garer sa Peugeot diesel qui a 14 ans.
C'est une hypocrisie totale et j'affirme qu'il fera ça discrètement cet été, on verra rien passer comme d'habitude.
En clair, c'est reculer pour mieux sauter, regrette également Denis, grand-père girondin, au volant de son Espace diesel datant de 1999.
Il reporte tout de 6 mois mais il n'enlève rien. Une voiture électrique, ça n'a pas fait un kilomètre, que ça a déjà plus pollué qu'une voiture à essence ou une voiture diesel.
Commerçant bordelais, Charles roule lui aussi avec un véhicule diesel et pourtant regrette la décision du Premier ministre.
Il faut évoluer avec le temps et le temps, eh bien, c'est la planète, hein. On n'a pas le choix. Il n'y a pas de raison qu'on recule par rapport à ça. Ça ne m'arrange pas, mais il faut y passer.
Dans les 6 prochains mois, le débat sur ce durcissement du contrôle technique des diesels n'a pas fini d'alimenter les discussions. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
Tout cela a décidément un coup politique terrible pour Emmanuel Macron, le président a cédé. Et cela n'a à ce stade aucun effet sur la contestation. Une manifestation des Gilets jaunes est toujours prévue pour samedi prochain à Paris. Les autorités craignent évidemment à nouveau des violences. Et pour couronner le tout, voilà que le chef de l'État fait publiquement l'objet des moqueries de Donald Trump. Le président américain a tweeté cette nuit, je le cite, « Je suis heureux que mon ami Emmanuel Macron et les manifestants à Paris soient tombés d'accord sur la conclusion sur laquelle j'avais abouti il y a déjà 2 ans. L'accord de Paris sur le climat est fondamentalement mauvais. » Fin de citation.
Et sur le terrain, David, on déplore toujours une pénurie d'essence en Bretagne.
Oui, mais l'on peut peut-être espérer un retour à la normale dans les stations-service prochainement. Les barrages qui bloquaient les dépôts de carburant de Brest et de Lorient ont été levés hier après-midi, quelques heures après les annonces du Premier ministre. Édouard Philippe, justement, va maintenant devoir défendre son plan de sortie de crise devant les députés. Il prendra la parole à 15h à la tribune de l'Assemblée nationale.
Alors qu'on le voit, les gilets jaunes ne désarment pas, le gouvernement va devoir faire face à un front supplémentaire.
Oui, après les gilets jaunes, les lycéens, les étudiants aussi, puisque Tolbiac a été bloqué hier, ce sera bientôt le tour des transporteurs. La CGT et Force ouvrière appellent les routiers à se mettre en grève à partir de dimanche soir. Et alors, Olivier Samin, c'est une décision du Conseil d'État qui déclenche ce nouveau conflit.
Oui, un arrêt du Conseil d'État tout récent, il date de la semaine dernière, qui remet en cause le taux de majoration des heures sup dans le transport routier. Pour la CGT et pour FO, cette décision risque de faire perdre plusieurs centaines d'euros par mois aux chauffeurs de poids lourds. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, a beau promettre dans un courrier que le problème sera résolu dans le projet de loi sur les mobilités, bientôt en discussion au Parlement, rien n'y fait. Chat échaudé craint l'eau froide, dit le chef de file des routiers CGT, Fabrice Michaud.
Même si on a un courrier de la ministre des Transports qui nous donne certains éléments, un projet reste toujours à l'état de projet tant que le travail législatif et parlementaire n'est pas terminé. Alors derrière, on n'est pas sur une démarche de récupération du mouvement des Gilets jaunes, parce que je vois très bien les raccourcis qui pourraient être faits. On est vraiment sur les bases revendicatives que la CGT porte depuis le début de l'année, où la notion du pouvoir d'achat est quand même au cœur de nos revendications.
Réponse hier soir du ministère des Transports, la CGT et FO prennent un mauvais prétexte pour lancer cet appel à la grève qui n'a, dit le gouvernement, aucune raison d'être. Qu'à cela ne tienne, la CGT et FO vont faire le tour des salariés du transport routier d'ici à dimanche soir pour les inciter à cesser le travail et à imaginer les formes d'action qu'ils mèneront.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1. La colère des gilets jaunes participe-t-elle d'un phénomène mondial? C'est ce que pense la présidente du Fonds monétaire international. La française Christine Lagarde a lancé hier un vigoureux appel en faveur de la coopération internationale. Pour elle, un âge de la colère pourrait bien advenir avec des inégalités sociales qui surpasseraient celles du capitalisme du 19e siècle.
À suivre dans ce journal, les conséquences peut-être inattendues du Brexit dans le Pas-de-Calais.
Europe 1, il est 6h35. Il est 6h36, Mathieu Noël.
La suite du journal David Doucan, le Brexit pourrait bien profiter au département français du Pas-de-Calais.
Oui, ce territoire mise sur l'idée que les entreprises britanniques voudraient garder un ancrage au sein de l'Union européenne. Une centaine d'entrepreneurs du Kent étaient accueillis hier à la mairie de Calais. Les élus locaux espèrent bien profiter des effets du Brexit. Reportage signé Lionel Gougelot.
Forcément, l'accueil se fait en anglais
comme pour montrer aux entreprises du Kent qu'elles seront un peu chez elles ici à Calais. Quand la Grande-Bretagne aura définitivement rompu les ponts avec l'Union européenne, des patrons anglais pourraient être tentés d'installer une partie de leur activité à la sortie du tunnel sous la Manche. Steve Sampson représente la Chambre de commerce du Kent.
Dans le Kent, on a beaucoup d'entreprises qui travaillent dans le domaine alimentaire. Et donc, si les chefs d'entreprise du Kent cherchaient un endroit pour pouvoir transporter leurs biens, leurs produits, ça ferait du sens d'avoir une base dans un endroit très proche d'Angleterre.
Alors à Calais, on vante les mètres carrés de bureaux, les surfaces de stockage deux ou trois fois moins chères qu'en Angleterre, les centres logistiques performants. Bien sûr, on ne sait pas ce que sera le Brexit, reconnaît Natacha Bouchard, la maire, mais on se tient prêt.
Peut-être que des entreprises auraient envie de faire 30 km et de se retrouver à Calais pour créer des bases arrière et donc sortir un petit peu des contraintes qui leur seront imposées. Donc nous devons nous tenir prêts et avoir des développements économiques nouveaux.
Une façon aussi de renouer les liens après les tensions franco-anglaises de ces dernières années sur fond de crise des migrants. À Calais, Lionel Gougelot, Europe 1.
Une alerte au tsunami a été lancée en Nouvelle-Calédonie. Un séisme de magnitude de 7,5 a frappé cette nuit au large de l'archipel français. Les autorités néo-zélandaises ont elles aussi émis une alerte similaire.
Parlons maintenant, David, du mal-être des étudiants de sage-femme.
Oui, parce que pour la première fois, une grande enquête nationale a été réalisée par l'Association nationale des étudiantes sage-femmes. Il s'agit de leur principal syndicat. Et cette enquête révèle des conditions de formation particulièrement rudes. Les explications de Mélanie Gomez.
Ce que montre cette enquête, c'est que lors de leur formation, un tiers des étudiants de sage-femme se sentent maltraités. En général, il s'agit de maltraitance morale, mais dans 5% des cas, c'est même de la brutalité physique. C'est ce qu'a vécu Juliette, 22 ans, lors d'une nuit de garde, aux côtés d'une sage-femme un peu violente.
À chaque fois que je faisais quelque chose, ce que j'avais appris la veille avec une autre sage-femme, elle disait que c'était pas bien. À chaque acte que je faisais, elle me tapait sur les mains pour me dire que c'est pas comme ça qu'elle, elle faisait.
Ensuite, ce que déclarent ces étudiantes, c'est un niveau de stress hors norme. 8 sur 10 se sentent stressées depuis le début de leur formation. Formation qui ne les prépare pas assez, selon Juliette, aux situations difficiles auxquelles elles sont très vite confrontées.
Je suis jeune et déjà je suis épuisée psychologiquement. Enfin, on fait face avec toute notre insouciance d'étudiante à la mort, à la perte d'un enfant, à des bébés malades, poulies mal formées, des femmes seules, sans abri, des femmes battues, des femmes violées. J'ai été voir plusieurs fois mon médecin qui voulait mettre sous anxiolytique, mais enfin, j'ai pas voulu. Je m'en suis sortie, enfin, je veux dire, je suis passée au-dessus. Mais il y a eu un moment où j'avais envie de tout lâcher, quoi.
Et quand on interroge celles qui ont arrêté net leurs études, pour 25% d'entre elles, c'est évident, c'est parce qu'elles ne supportaient plus leur formation.
Information signée Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1.
C'était le journal de David Doucan, un journaliste qu'on m'avait décrit en interne comme, disons, une diva. Quelqu'un en tout cas d'assez sûr de son talent, d'où son surnom, le petit prince du news. Et bien comme quoi les rumeurs sont souvent exagérées car au fil des mois j'ai découvert un être simple, généreux, proche des gens. Et je n'ai pas peur de dire qu'on est devenu amis. Allez David, on rentre en bus après l'émission.
En bus, plus quoi encore. Non mais, pourquoi pas en stop.
Vous savez que je suis mal à l'aise dans votre Jaguar, David. Moi, ça ne me convient pas. Alors, comme ça vous fait plaisir, je le sais, vous m'avez demandé ça comme une faveur. Je vous demande de lancer la météo de Céline D'Acosta.
Oui, la météo immédiatement avec Céline D'Acosta.
Oh la vache. Effectivement, ça a plus de gueule.
Eh bien, du soleil. On va commencer par les bonnes nouvelles, mon cher David. Du soleil sur l'extrême sud.
C'est quand même la météo.
Ce matin, des Landes à la région Rhône-Alpes. Cet après-midi, on le retrouvera des Pyrénées aux Alpes. La Corse aussi aura du soleil toute la journée. Pour les autres, c'est un ciel bien voilé toute la journée, couvert sur la moitié nord ce matin avec de faibles averses. Il en restera cet après-midi. Et puis on aura une nouvelle perturbation également avec des pluies soutenues, du vent et quelques coups de tonnerre. Elle arrivera par la Bretagne en fin d'après-midi et traversera la France d'ouest en est la nuit prochaine. Les températures restent douces pour la saison. Cet après-midi, 11 degrés à Reims, 13 à Paris, 14 à Brest. Il en fera 16 à Bordeaux, 17 pour Biarritz et Marseille, 19 même à Tarbes et à Ajaccio.
Merci Céline. Eva, le saviez-vous, c'est aujourd'hui l'anniversaire de Jean-Luc Petit-Renaud.
Exactement. Et nous avons demandé à cette occasion à nos auditeurs sur Twitter de quel plat ils avaient envie avant 7h du matin. Et bien Gecko nous a répondu, il avait envie de bûche et il s'entraîne d'ailleurs en secret à faire une génoise pour épater sa fille au moment des fêtes et il nous a même envoyé les photos de la bûche en question. Merci pour tous les messages que vous nous avez envoyés ce matin et on se retrouve demain.
Merci à vous chers auditeurs.
Il est 6h41, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos et de bonne humeur, seulement voilà. Comme vous direz ma consoeur Céline D'Acosta, 2 heures c'est long. Et comme notre 5-7 est dense, les moments où l'on peut s'esquiver au sanitaire sont rares. En fait, il y a 2 moments possibles, comme Céline nous l'avouait hier hors antenne.
C'est 2 moments où je suis pas aux toilettes. Soit pendant l'interview, mais j'avais envie d'écouter, soit pendant Michel Dermont.
Vous le repassez pas, ça. Hein. Le pauvre, il va être... Non, c'est... Mickaël, je t'aime beaucoup.
Oui, Mickaël, on t'aime. Et justement,
il est pas là,
heureusement. Justement, les trois fantastiques avec Mickaël Darmon arrivent. Ça va être passionnant puisqu'il nous dira comment le tandem Macron-Philippe fait face à la crise. Croyez-moi, Céline, ça vaut le coup
rester,
de vous retenir.
Je vais rester.
Ah oui, oui, retenez-vous.
Les 6h44, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Alerte au tsunami en Nouvelle-Calédonie, un séisme de magnitude 7,5 a frappé il y a quelques heures au large de l'archipel français. Le plan de sortie de crise du gouvernement va passer devant les députés cet après-midi. Le Premier ministre s'exprimera à la tribune de l'Assemblée à 15h. Sur le terrain, la colère ne semble pas s'apaiser. Des barrages sont maintenus ainsi que l'appel à manifester à Paris pour samedi prochain. Enfin, la patronne du Fonds monétaire international s'inquiète. Christine Lagarde a lancé un appel en faveur de la coopération internationale. Elle craint l'avènement d'un âge de la colère avec des inégalités qui pourraient, selon elle, surpasser celles du capitalisme du 21e siècle.
Europe 1, 5h, 7h.
Du 19e siècle, autant pour moi.
Mathieu Noël.
Le capitalisme du 19e siècle, évidemment, auquel faisait référence Christine Lagarde. Il est 6h45, l'heure de retrouver l'équipe que tout l'audiovisuel français nous envie et à qui même CNN fait, dit-on, des appels du pied. Sans savoir que certains membres de cette équipe ont un peu menti sur leur CV lorsqu'ils ont écrit anglais bilingue.
Amazing, question bang, big bang.
Voici les trois fantastiques, Eva Rock pour les médias, Mickaël Darmon pour la politique, Axel de Tarlé pour l'économie. Axel, aujourd'hui illustre analyste, dont vous vous demandiez peut-être ce qui le faisait rire lorsqu'il était encore étudiant en fac d'éco. On a eu hier un élément de réponse.
Le CIP, c'était Balladur, et je me souviens du slogan Balladur, baisse ton CIP. Ça me faisait rigoler.
Mais on savait s'amuser à l'époque. Hein. Bref, Mickaël Darmon va plutôt...
Balladur en slip, déjà.
Oui, on a l'image, effectivement, Axel. Effectivement, c'est assez drôlatique. J'aime bien cette explication
c'est
bien. Derrière
non,
la balle.
C'est sympa pour le surligner.
Merci, ouais. Merci. On passe plutôt à la politique avec Mickaël Darmon. Mickaël, vous nous le disiez dès hier qu'un moratoire des hausses des taxes sur le carburant était à l'étude. Le gouvernement a effectivement lâché du lest. Mais est-ce que l'exécutif parle d'une même voix dans cette affaire?
Alors écoutez, on va dire les choses comme elles sont. Hein. Édouard Philippe, lui, il aurait préféré quand même garder le cap, hein, comme il le répète en privé. Il faut trouver des solutions cohérentes, avec constance, et ne pas en bouger. C'est dire si le signal donné par le président n'était pas vraiment dans la ligne d'un chef du gouvernement exposé et obligé de céder. Mais Emmanuel Macron était prêt à aller encore plus loin. C'est une information Europe 1 que je vous donne ce matin. Le président de la République avait envisagé hier d'annuler la mesure de limitation de vitesse à 80 km/h et de la mettre ainsi dans la liste des gestes pour apaiser la colère. Mais il en a été dissuadé par ses conseillers avec cet argument. Ce serait un coup beaucoup trop dur pour Édouard Philippe qui s'était fortement engagé pour cette mesure. Donc cette information a deux enseignements. Premièrement, effectivement, Macron depuis le début n'était pas pour cette mesure portée par le Premier ministre. Et puis, au fond, il a décidé de ne pas lui porter préjudice.
Alors, Mickaël, on présente le Premier ministre comme étant en difficulté actuellement. Est-ce que c'est vraiment le cas?
Écoutez, entre Macron et Philippe, il n'y a pas vraiment de conflit majeur. Il n'y a pas d'arrière-pensée électorale. C'est d'ailleurs très différent de ce qu'on a pu connaître par le passé. C'est plus compliqué, en réalité, pour les relations entre les marcheurs et Philippe. Parce qu'il lui reproche de ne pas avoir rejoint La République En Marche et de mener une politique trop à droite. Mais le vrai problème, selon plusieurs proches du président, eh bien, c'est au fond le tandem formé par les deux technos, Macron et Philippe. C'est ton sur ton. Macron, qui a fait campagne justement contre les freins technocratiques, donne le sentiment de s'être fait enfermer par les fans de la trajectoire budgétaire à tout prix. Et parmi les manifestants, d'ailleurs, on trouve des électeurs de Macron qui ne retrouvent plus leur candidat. C'est pourquoi, à un moment, pour se redonner une marge de manœuvre, eh bien, Emmanuel Macron aura sûrement la tentation de devenir le gilet jaune d'Edouard Philippe.
Oui. Ah, ça ne manquerait pas de sel. Merci beaucoup, Mickaël Darmon, pour cette analyse. On passe à l'économie avec vous, Axel de Tarlé. Français et Allemands se mettent d'accord pour taxer les géants américains du numérique, mais il s'agit d'une taxe à minima.
Voilà, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Alors effectivement, côté verre plein, bah ça y est, les Allemands ont accepté l'idée française de taxer les GAFA. Vous savez, Google, Facebook et Apple payent très peu d'impôts et ça nourrit le sentiment d'injustice. Donc les Français avaient une idée de faire une taxe bête et méchante. On va prendre 3% du chiffre d'affaires à tous les GAFA. Alors pendant longtemps, les Allemands se sont montrés réticents à cette idée. En fait, ils craignaient que Donald Trump, en mesure de représailles, ne taxe les constructeurs automobiles allemands. Eh bien ça y est, les Allemands ont pris leur courage à deux mains et ils ont accepté cette idée française de taxer les Google, Amazon, Facebook
et
Apple.
Je sens qu'il y a un mais.
Bon, le mais
et
arrive,
il y a un
arrive.
Énorme ouais. Mais. Donc c'est le verre à moitié vide, donc j'y vais. Alors finalement, cette taxe à 3%, les Français avaient dit, ça va porter sur le chiffre d'affaires, toutes les ventes, les Allemands ont dit. Alors on est d'accord pour la taxe à 3%, mais uniquement sur les publicités en ligne, sur les revenus publicitaires.
Quoi?
Donc ça fait une taxe 4 fois plus petite. Voilà. Donc c'est plus que, elle devait rapporter 4 à 5 milliards, elle ne rapportera plus que 1 à 2 milliards. Deuxième mais, elle n'entrera en vigueur que le 1er janvier 2021. Bon, donc ça laisse le temps de voir venir. 3e mai, il faut maintenant obtenir l'accord de nos 26 petits copains en Europe. Donc vous voyez, tout ça, ça fait qu'il y a un énorme mais. Mais enfin, bon, on avance.
Mais pourquoi, Axel, la France ne peut pas décider toute seule d'imposer cette taxe sur les GAFA ?
Eh bien, vous savez que ce sont les Anglais et les Espagnols qui ont dit, bah écoutez, parce qu'eux aussi veulent faire une taxe sur les GAFA, et comme ils voient que ça n'avance pas en Europe, ils disent, on va y aller tout seul. Oui, bien sûr, on pourrait le faire. Alors, l'idée quand même de faire l'Europe, c'est d'avancer groupé. On est plus fort quand on est groupé. Mais bon, c'est compliqué parce qu'il faut l'unanimité. Voilà, bah écoutez, c'est un test pour l'Europe, hein, et c'est sûrement cette taxe GAFA va influencer sur le vote des Français aux Européennes en mai prochain.
Merci beaucoup Axel de Tarlé. Eva Rock, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir ?
La malédiction de la Vologne sur France 3 à 21h. Documentaire fleuve sur l'affaire Grégory. Alors moi j'ai beau être assez friande d'émissions sur les faits divers, là je reconnais y être allé à reculons. La musique que vous écoutez, que vous entendez, c'est le générique de cette série documentaire. Donc un énième documentaire sur cette affaire dont je sais qu'il n'y a pas de fin, m'enthousiasme et guerre. Eh bien erreur, vraiment, les 5 épisodes réalisés par Philippe Hurel sont remarquables de rigueur et enrichis par un immense travail d'archives. Exemple parmi tant d'autres, hein, quand Jean-Marie Villemain, le père de Grégory, apprend que Bernard Laroche, son cousin, est soupçonné.
Si c'est lui, bien que justice soit faite, quoi.
Vous pensez toujours que c'est lui, vous avez...
De toute façon, maintenant, d'après ce qui a été dit et fait, bon, bah, à 95%, c'est lui. Et moi, maintenant, j'en suis certain. Ça peut être qu'une personne comme ça.
Alors, au-delà de la reconstitution précise de l'enquête, qui est marquée par une hystérie médiatique qui, avec le recul, est effrayante, cette série documentaire, elle mérite le détour pour deux raisons, à mon sens. D'abord, le travail de mise en scène et d'écriture. Denis Podalydès, pardon, qui assure la voix off, est servi par un texte ciselé, intelligent. Et intelligent parce que, et c'est le deuxième point fort du film, en fait, Philippe Harel ne traite pas un fait divers.
Je crois que c'est Pierre Harel, me semble-t-il.
Pierre Harel, vous dites,
Il me semble.
Je suis pas sûre. Il traite d'un fait divers dans une région en tentant de comprendre le quotidien de tous les protagonistes de l'affaire dans ce coin de France où les traditions rurales se heurtent aux nouveaux modes de vie dus à l'industrialisation naissante, dans ces Vosges où le silence est de mise, comme le racontaient des enfants lors d'un reportage.
Vous croyez que tout le monde, un petit peu partout, se doute de qui peut être le corbeau ou l'assassin ?
Oui.
Tout le monde a sa petite idée là-dessus ?
Oui.
Et personne ne veut le dire, les gens n'en parlent
pas. Non, ils n'aiment pas parler.
Mais pourquoi est-ce qu'on ne parle pas ? C'est l'habitude ici de ne pas parler ?
Oui. Quand on sait quelque chose, on ne le dit pas trop, quoi. On le garde pour soi-même.
Documentaire fleuve donc de Pierre Harel, vous aviez raison, c'est pas Philippe, c'est Pierre, mais qui devrait vous accrocher au même titre qu'une série, c'est à voir sur France 3 à 21h, La Malédiction de la Vologne.
Merci beaucoup Eva Rock, merci Mickaël Darmon, Axel de Tarlé, les trois fantastiques seront de retour demain avant 7h moins le quart. Axel, un dernier mot ?
Baisse ton cip.
Oh oui, il a
Il est 6h52, Mathieu Noël.
Debout les copains s'acheminent tranquillement vers le passage d'antenne de 7h avec l'ineffable Nikos Aliagas, qui adore le moment qui vient, celui du débrief de son 7-9 où je souligne les petits travers de sa matinale avec le sadisme débonnaire d'un inspecteur des travaux finis. Pourtant, mystérieusement, je sens que Nikos m'aime bien. Il m'a même donné un surnom grec, l'Otrokonos.
Autrement dit, la punaise diabolique.
Oui, et encore, je crois que la traduction est plutôt flatteuse.
Il est 6h55, Mathieu Noël.
Debout les copains se termine avec ce moment d'habitude suintant de fiel et de mauvais esprit qu'on appelle le débrief de la matinale de Nikos Aliagas. Pas ce matin. Ah, pas ce matin. Ce matin, mon cher Nikos, c'est en effet avec le plus lourd des fardeaux, celui de la honte, que j'intimerai cette séquence. Car moi qui osais vous dépeindre comme un gilet d'or, une star déconnectée des réalités, pêchant à la dynamite au large de Naxos depuis son yacht...
C'est bon ça.
Quel choc de découvrir que vous avez vous aussi connu les fins de mois difficiles, les pattes à la maillot et les caleçons qu'on retourne pour économiser la lessive. Oui, au détour d'une confidence lors d'un enregistrement dans le petit studio Siegel, on découvrait hier un bien sombre passé.
J'aime bien les petits studios. Ça me rappelle la chambre dans laquelle je dormais. Quand il y avait un petit lit, un clic-clac sous la machine à coudre.
Diable ! Imaginez ce bel âtre grec chaussé en berloutis dormir dans un clic-clac, qui plus est sous une machine à coudre. Je vous appellerai désormais Cosette Aliagas. Et c'est probablement de ces années de disette que Cosette a gardé ce souci de l'autre, cette empathie qui fait qu'il s'occupe si bien de Laurent Cabrol. Car oui, dans ce que les neurologues ont appelé le cacabrol, il n'y a pour l'instant aucune éclaircie. Comment ça va Laurent ?
Je reviens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi.
Non, le long t'a dit, tu reviens simplement de la cantine et c'est pas des étoiles, c'était des petits pois. Bref, fort heureusement, il a des instants de lucidité et là, il peut être grandiose Laurent Cabrol. C'est d'ailleurs l'événement du jour, alors que les gilets jaunes et 80% des Français qui les soutiennent attendaient une réaction du président de la République, un geste, une solution, voire un mea culpa, alors qu'il guettait son apparition sur le perron de l'Elysée ou d'une
d'une main tremblante et d'une voix émue, il aurait fait une déclaration majeure. Finalement, ces Français n'auront pas eu les excuses d'Emmanuel Macron, mais celles de Laurent Cabrol, qui, lui, a eu le mérite de reconnaître qu'il avait eu tort.
Mais justement, je voudrais changer par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais être quand même un peu plus optimiste. Tout à l'heure, je voyais toutes les choses en gris, je ne sais pas pourquoi. Il y a en météo, il y a la lecture des cartes et l'impression des cartes. Je voudrais dire à nos amis que la journée ne sera pas si moche que ça. Voilà. C'était simplement ce message d'espoir que je venais transmettre à la nation. Enfin, je rigole, mais c'est vrai.
Cosette, Lolo, c'est ainsi que je termine ma chronique, car j'ai les larmes aux yeux, je n'arrive plus à lire mon texte.
Il est fort.
Certainement une tournure proustienne. À demain, Nico, certainement.
À la recherche de l'erreur égarée, avec notre ami Mathieu Noël, vous m'avez enregistré contre mon plein gré.
Oui, c'est ça.
Ah, ça, c'est fort. Hein.
Je ne savais pas que j'étais enregistré quand je parlais à la régie finale.
Partez du principe que vous êtes tout le temps enregistré.
Mais c'est, je ne peux plus prendre un café et dire quelque chose dans les couloirs.
Non.
Merci beaucoup. Merci infiniment.